Bonjour et merci d'être avec nous pour cette rencontre qui est un temps fort du cycle Audrius Tonis, les vies intérieures, organisée par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Alors nous avons le plaisir de participer à la saison culturelle de la Lituanie en France en présentant jusqu'au 18 novembre l'intégralité de l'œuvre documentaire d'Audrius Tonis, qui est une figure majeure du cinéma balte et de la poésie documentaire. Pour celles et ceux qui viennent aujourd'hui pour la première fois, je précise à nouveau qu'Audrius Tonis nous fait l'amitié de sa présence. Il est arrivé de Vilnius mercredi et il va rester à Paris jusqu'au 15 novembre pour accompagner la vingtaine de films qu'il a réalisés en 35 ans. Et pour organiser cette première rétrospective intégrale en France, nous avons eu de grands soutiens. L'Institut français, qui organise toute la saison culturelle, et le Lithuanian Film Center, qui œuvre depuis des années à la restauration des films d'Audrius, et dont deux représentantes sont ici avec nous aujourd'hui. Donc je tiens à les remercier, Aoste et Maya. On a aussi une précieuse alliée pour organiser ce cycle, Aoste Zdančiūtė, qui est attachée culturelle de la Lituanie en France et qui est aujourd'hui avec nous pour animer cette rencontre. Alors Aoste, Audrius, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre et à vous installer ici pour discuter. Et vous serez accompagnée aujourd'hui par Émile Bertera, que je remercie beaucoup de nous accompagner pour l'interprétariat. Venez me rejoindre ici. Moi, je vais rester de votre côté dans la salle pour poser des questions, mais aussi pour vous tendre le micro. Vous êtes plus que bienvenue à poser des questions à n'importe quel moment. On n'attendra pas forcément la fin de la discussion pour que vous puissiez aussi participer à la discussion. Donc voilà, vous êtes bienvenue. Merci Audrius, merci Aoste et merci Émile pour d'être avec nous.
Bonjour. Je voulais de ma part aussi remercier Arnaud Hay, qui était aussi à l'initiative de cette rétrospective, et Harry Boss, qui a programmé la rétrospective ensemble avec Marion. Et je voudrais remercier aussi Florent, qui est avec nous ce soir à la cabine de projection et qui va nous aider à montrer les extraits. Je vais commencer par vous lire la biographie de Audrius Tonis. Alors, Audrius Tonis est né à Vilnius en 1966. Il a étudié le cinéma à l'Académie de musique et du théâtre de Vilnius, où il a bénéficié des enseignements du documentariste Henrik Ašablevičius, fondateur de la faculté du cinéma et de la télévision au sein de l'Académie. Ce dernier avait initié avec Robert Asverba le cinéma documentaire poétique. Dans les années 60, en réaction au documentaire officiel, instrument de la propagande soviétique. Pour les tenants de ce courant et leurs héritiers, le documentaire est avant tout une forme artistique libre qui permet d'exprimer, à travers la poésie du quotidien et en faisant l'économie du discours, l'identité lituanienne. Audrius Tonis a ensuite suivi à l'Anthology Film Archives à New York un séminaire de Jonas Mekas. En 1989, ce fut une expérience marquante et lui a, semble-t-il, permis de développer une œuvre singulière et intuitive et de revendiquer la validité documentaire d'une représentation du monde guidée par la subjectivité. Audrius Tonis commence à tourner en 1989 et l'indépendance politique de la Lituanie, acquise en 1990, a eu pour conséquence de confronter la pertinence de la posture professionnelle et artistique qui est la sienne. Son œuvre est composée essentiellement de courts et de moyens métrages tournés avec de petites équipes et des moyens réduits. Tous ces films sont des documentaires qui s'intéressent à la vie, fût-elle intérieure, de ses semblables. Nous en comptons 20 pour ce jour et ils sont tous présentés ici à Paris dans cette rétrospective intitulée « Les vies intérieures ». Et j'ai envie de mentionner que la European Film Academy lui remet le prestigieux prix Félix, distinguant chaque année le meilleur documentaire pour son film Earth of the Blind en 1992. Et le prix lui est remis par Tilda Swinton. Et ces films ont été projetés et des rétrospectives organisées dans divers festivals et lieux à travers le monde que je ne vais pas vous citer. Je vais juste mentionner qu'en France, on a découvert le travail de Audrey Stonis en 2003 à l'USAS, en 2006 au cinéma du réel et aux rencontres du cinéma documentaire en 2011. Et Audrus a enseigné au Japon, aux États-Unis et ainsi qu'à Barcelone. Et depuis 2009, il poursuit son rôle de formateur à l'Académie lituanienne de musique et du théâtre, l'Académie des beaux-arts de Vilnius, et le plus récemment à Sogang Université à Séoul, en Corée du Sud. Voilà. Et donc, j'aimerais bien commencer donc la conversation en parlant sur le contexte dans lequel vous avez grandi et vous avez commencé votre travail filmographique. Et il me semble en 30 ans de votre parcours, vous avez vécu beaucoup de choses dans le cinéma et je suis sûre que vous avez plein de choses à nous raconter. Et peut-être que pourriez-vous parler de votre environnement dans lequel vous avez grandi en tant que cinéaste, de quel type de communauté cinématographique s'agit-il, des personnes partageant les mêmes idées, les personnes d'autres professions peut-être, des critiques. Voilà, à votre avis, qui a créé ce contexte?
Okay, thank you for the question. It's a big question. It's a lot to speak and to tell. But actually, you are totally right. It seems for me that I lived several lives. That's a very good observation because I grew up at during the Soviet system. I learned during the Soviet system, and I started my professional work of the first years of independence at the time when the system totally, the Soviet, it was a crazy time because the old system collapsed and the new system was not still built. So you have to... We had to do everything to create our language, our films on the ruins of the old system. And what is very special about the system I lived, like till I was 20, 21 or 22, 22, that the cinema was used very much for the propaganda purposes, but they were very honest and very brilliant filmmakers who used to look the ways how to overcome this. I really liked one quote of one of the filmmakers who said, said we couldn't tell the truth, but we didn't want to lie. And we still wanted to make films. So actually this attitude defined the way those films has been created during the Soviet era.
Alors, merci beaucoup, c'est une vaste question que vous avez posée. J'ai beaucoup de choses à dire pour répondre à cette question, mais je pense que vous avez raison, effectivement. J'ai moi-même la sensation d'avoir vécu plusieurs vies, donc c'est très bien vu. C'est vrai que j'ai grandi effectivement à l'époque soviétique, c'est dans ce contexte politique-là que j'ai fait mon apprentissage et ensuite j'ai fait mes premiers pas en tant que cinéaste dans les premières années de l'indépendance de mon pays. Donc c'était une époque très singulière parce qu'on venait de faire face à l'effondrement d'un système et en même temps le nouveau monde était encore à l'époque des balbutiements et il y avait tout à construire à ce moment-là. Et donc j'ai dû développer mon langage cinématographique à un moment où mon propre pays était en ruine, jusqu'à à peu près mes 22 ans, effectivement, il y avait eu ce système soviétique dans lequel Le cinéma était avant tout, comme vous l'avez dit, un outil de propagande. Et pourtant, on avait des cinéastes qui étaient honnêtes, qui étaient brillants, et qui essayaient à travers leurs œuvres de surpasser ce contexte politique. Et il y a une citation en particulier qui m'a beaucoup frappé d'un réalisateur à l'époque, qui disait « On ne pouvait pas montrer la réalité et en même temps on refusait de mentir. » Et ce qui nous tenait à cœur, c'était de faire des films. Et je trouve que cette phrase est particulièrement vraie par rapport au contexte de ces cinéastes.
So what you do in these circumstances, you have the only way in this situation that you have to create the language that the censors would not understand, but your own people, the people that you're approaching, your audience, would read without words. It's a very, very sophisticated, it's very interesting game, where you have to avoid the obstacles of the censorship and at the same time to deliver message hidden between the lines, behind the images, behind the landscapes and portraits. You have to understand that, you know, the words are the most easy to censor. Because the censors could say, okay, I don't like this sentence, take it out, or your film will be dead, will be banned, or take out this kind of, then you can really interfere. But how can you censor the landscape? It's impossible. How can you say, okay, I don't like this landscape? Yeah, but why? I don't like, you know, you present the faces and the people, like old people, who tells you their faces are telling you stories. Those people lived during the independence. So those censors in Moscow, they cannot read this, but we can. We know, okay, this old lady lived. She remembered the time that we were independent. And that was the way to deliver us the message.
Et donc c'est vrai que dans ce contexte-là, la seule chose qu'on avait à faire, c'était de développer un langage que les censeurs n'allaient pas comprendre. Alors le public, en revanche, lui, je pense, arriverait à comprendre le sous-texte. Et donc c'était un jeu assez passionnant, je dois dire, à essayer d'éviter les obstacles comme ça de la censure, à cacher des messages sous-jacents dans nos propres films. C'est-à-dire qu'un paysage, un visage peut exprimer beaucoup plus que ce qu'on croit voir à la surface. Et donc il fallait essayer de contourner cette censure. Alors que si on avait par exemple eu une parole politique, si on avait eu des dialogues éminemment politiques, ça aurait été très facile à censurer. C'est-à-dire que les censeurs auraient juste dit il faut couper telle ou telle réplique, il faut retirer telle ou telle scène. Mais comment vous voulez censurer un paysage? C'est impossible. Le censeur ne va pas dire ah, j'aime pas vraiment ce paysage. Même chose pour les visages. Alors qu'en réalité, si vous filmez par exemple une vieille personne, son visage raconte une histoire, raconte l'histoire d'un pays, de ce que le système a vécu. Et je pense que les censeurs à Moscou, c'est des choses qui leur passaient complètement au-dessus de la tête, que le public local, lui, comprenait. Et donc, par exemple, si on filme une vieille femme et on voit sur son visage son souvenir du système, c'est quelque chose que le public va comprendre.
I just want to give you one small example. If those who saw the Bridges of Time at the opening of the retrospective, you remember those two old ladies, and one of them said, do you want to live? He said, no, I'm tired to live. So this is a little piece from the brilliant, beautiful film of Robertas Verba, Lithuanian filmmaker, and it's called Dreams of Centenarians. He filmed the people, old people who are 100 years old. And this is extremely dangerous subject, because all those people lived during the independence. They remember the time when we were free and independent. So how can you make this film, how can you get the permission? And also, you know, all those people, they are not afraid anymore. What can you do with them? Put in the prison, 100 years old lady? Are you going to put her in the prison or send her to Siberia? So the most simple solution that the subject could be banned. But the director said, okay, That was the year of 100th anniversary of Lenin. And he said, I would like to make a film about people who was born at the same year as Vladimir Lenin. And it was okay for the officials. That was, oh, that's nice. That's a brilliant idea. And he made that film. And of course, you don't see a single mentioning of Lenin in that film. It's just those people who are sharing their view on life, on time. And it's a little jewel. It's a little masterpiece.
Je vais donner un exemple qui, à mon sens, est très parlant. Si certains d'entre vous ont vu Bridges of Time, qui était le film d'ouverture de ce cycle, il y a un échange entre deux vieilles femmes et on leur pose la question, est-ce que vous voulez continuer à vivre? Et l'une dit, non, je suis trop épuisée pour continuer. Et ça, ça vient d'un film de Roberta Sverba, qui est un film magnifique qui s'appelle Dreams of Centenarian, un film des centenaires. Et c'était un sujet qui est très dangereux parce qu'il filme des gens qui ont connu l'époque d'avant l'ère soviétique, des gens qui ont le souvenir d'un temps où le pays était indépendant. Et c'est insensé. On se demande comment il a réussi à faire un tel film, comment il a réussi à avoir le permis de tourner un film pareil. Et en fait, il filme des gens qui vivent sans peur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire face à des centenaires qui se rebellent? Est-ce que vous allez les emprisonner? Vous allez les exiler en Sibérie? Et pour que le sujet passe la censure, il s'est dit, c'est l'année où on fête le centenaire de Lénine. Je veux faire un film en m'intéressant à des gens qui sont nés la même année que Lénine. Ça a tout de suite été accepté par les huiles à l'époque. Évidemment, quand vous voyez le film, il n'y a aucune mention qui est faite de Lénine. C'est un film qui se concentre essentiellement sur le point de vue de ces personnes qui racontent voilà, leur vie, qui parlent de leur époque. Et à mon sens, c'est un chef-d'œuvre.
So this is where the probably this poetic documentary language has been born. I'm not saying that's a unique thing. I think there are, of course, then you speak about the poetic documentary, you can speak about Chris Marker or Artavas Pelesiano, Parajano, for many, many different filmmakers, but this Baltic poetic documentary way was formed during those years. So then you see those black and white films and a lot of silence, no words, a lot of foggy images. You can say that's a signature of the school. And this is not only to make it more beautiful. It's not only aesthetical reasons. Because black and white and fog, it covers, the fog covers the signs of this Soviet system and all these kolkhozes and all these ugly buildings. And suddenly it brings you to timeless space and timeless universe. And the silence, it's again, it allows you to make your own interpretations and lets you have your own thoughts. And the poetry, probably this is the way how to approach and to say something more than you can see on the surface. So those people and those filmmakers, speaking about the context, the Henrika Šablevičius, who was my teacher, and Roberta Sverba, and Herz Frank, and Uldis Browns, and Mark Saucer, and Janis Freimanis, all those filmmakers, I consider them my teachers. I learned from them.
Et donc je pense effectivement que le langage du documentaire poétique vient de là. Je ne prétends pas que ce soit unique. On a vu des cinéastes comme Chris Marker, comme Palagiano, comme Parajanov, qui avaient développé cette esthétique de leur côté. Mais je pense que dans les pays baltes, cette tradition-là vient de cette époque. Le noir et blanc, la grande part qui est accordée au silence, ces plans dans le brouillard, c'est des signatures visuelles qui viennent de cette époque-là. Et ce ne sont pas seulement des signes qu'on a développés pour des raisons esthétiques. Je pense aussi que le noir et blanc, filmé à travers le brouillard, c'est une façon de contrer la laideur de l'époque soviétique, de masquer la laideur des bâtiments de l'époque et de donner un côté intemporel aussi au film. La place du silence dans mon cinéma, je pense que c'est aussi ce qui permet aux gens de faire leur propre interprétation. Ça laisse la place au développement de la pensée dans chacun des spectateurs. Et puis aussi, ça nous permet d'élever un petit peu les choses, de dire plus que ce qu'on voit en surface. Donc quand je pense à des cinéastes comme Verba, comme Herz Frank, comme Solsa, comme Fremanis, ça a été mes mentors, toute cette génération-là.
Vous avez aussi eu la chance de rencontrer Jonas Mekas. Et Jonas Mekas, c'est une figure qui est bien connue en France dans le cadre de la saison de la Lituanie. Centre Pompidou lui a consacré une journée de la poésie. Et on a vu une rétrospective de ses films en 2022 à la Cinémathèque française. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu comment lui, il a marqué votre parcours, votre carrière?
I have to say that it's indescribable. You cannot express this in words, because imagine you live in this totally closed society and this iron curtain, so you don't see films, you don't travel anywhere, you're just closed like in this metal box. And you, of course, you know, I have to say, then even, you know, I was studying filmmaking. I never touched the film camera during those 5 years of the education. The cameras, forget about it. The first time I saw the camera, that was after I graduated from this film school. And we couldn't see films. That's also, it sounds totally surrealistic. Now this is a beautiful exhibition there of this surrealism, but actually I lived all my life till 22 years. I experienced on my own skin this surrealism of this Soviet system. We couldn't watch films of these great masters like Antonioni, Fellini, and Pasolini, and all those the others, Werner Herzog. So our teacher of film history or film theory, she used to tell us films that she saw in Moscow by studying in Moscow, and then during exam. We used to tell what she told us, to retell. So only after many, many years I saw those films, and I was so surprised. But we only could imagine those films. So that's so then you live in that totally closed society. And suddenly you are in New York, in the middle of New York, in Manhattan, with Jonas Mekas, with his totally crazy films. And you're watching films from morning till night. And it was the summertime. We used to come quite early, and we spent all day till the late evening watching and watching and watching new films, American avant-garde. Not only Jonas, of course, his films, but not only his films. All these, you know, American avant-garde films, and the first three, and it was kind of mind-changing and life-changing experience. Suddenly, we understood that okay, film could be so many different things, so many unimaginable. Sometimes, the moment you say no, this is not a film. And Jonas Mekas, you say, why not? Or who said that? Who said that it's not a film? from, you know, totally crazy experiments, like butterflies, the dry dead butterflies glued to the tape and then run through the projection, from to black and white flickers on the screen, but also amazing, totally amazing and crazy films that they showed. So this, of course, I would say, you know, usually I say that I had two teachers. One was Henrika Szablewicz, who taught us the poetic language. And I have another teacher who was Jonas Mekas, who taught us freedom. And I think that was the two important elements that really helped me during all my creative work.
Je pense que l'influence de Mekas à l'époque est indescriptible. J'arriverai pas à mettre de mots sur l'impact qu'il a pu avoir sur ma vie. Il faut penser qu'à l'époque, on vivait dans un système très opaque. Derrière le rideau de fer, on n'avait pas accès au cinéma, on n'avait pas accès au voyage, on n'avait aucune perspective. Il faut imaginer que quand j'étais étudiant en cinéma, on a quand même passé 5 ans à étudier sans toucher la moindre caméra. N'y pensais même pas, en fait. La première caméra que j'ai vue, c'était après avoir obtenu mon diplôme, alors que j'étais quand même étudiant en cinéma. On ne voyait aucun film. On peut penser que c'est surréaliste. D'ailleurs, il y a une magnifique exposition en ce moment au Centre Pompidou sur le surréalisme. Mais moi, j'ai vécu dans mon fort intérieur le surréalisme du système soviétique. Les œuvres étaient invisibles, que ce soit les films d'Antonioni, de Fellini, de Pasolini et consorts jusqu'à Werner Herzog. On avait une professeure de théorie du cinéma qui nous racontait ces films qu'elle avait pu voir à l'époque où elle vivait à Moscou. Et donc, en examen, on ne faisait que répéter ce qu'elle nous avait dit sur ces films-là, que j'ai fini par découvrir des années après, à mon grand étonnement d'ailleurs. Donc, à l'époque, on pouvait seulement imaginer ce que représentaient ces œuvres. Donc, il faut imaginer qu'on est dans ce système très opaque. Et du jour au lendemain, je me retrouve propulsé à East Village, à Manhattan, à regarder des films auprès de Jonas Mekas, des films complètement dingue, du matin jusqu'au soir. Je me souviens, c'était un été, et jusqu'à la fin de la nuit, on regardait des films d'avant-garde américains, les siens et d'autres d'ailleurs. Et cette expérience, je pense, a vraiment bouleversé ma vie. Et je pense que ça a remis en question pour beaucoup d'entre nous le sens même du mot film. C'est-à-dire que parfois, on se disait, mais ce qu'on est en train de regarder, c'est même pas un film. Et Mekas nous disait tout de suite, mais qui pense ça? Qui dit ça, au fond? Je me souviens, par exemple, de films où il y avait des cadavres de papillons qui étaient collés à même la pellicule et qui étaient passés à travers un projecteur. Parfois, c'était simplement des flashs de noir et blanc qui étaient projetés. C'était une expérience incroyable. Donc, je peux dire que j'ai eu deux professeurs qui ont beaucoup compté pour moi à cette époque. Szablewicz, qui lui m'a vraiment appris le langage poétique, et Mekas qui m'a appris la liberté. Et je pense que tout au long de ma carrière, ça a été les deux dimensions clés qui m'ont guidé.
Puisque vous avez mentionné Henrika Szablewicz, et je suis en train de regarder cet écran où on voit l'image en cadre de votre film Kuukei, et je me rappelle que vous avez dédié ce film à Henrika Szablewicz. Donc peut-être que je vous propose de regarder un petit extrait et comme ça on peut commencer à plonger dans vos films.
Yes. Okay. We can. Maybe it's a short introduction. This film started differently. I wanted to make a film about this eternal chase of the youth, of this kind of the illusion that we can stay young forever. But it happened that during the time I was making that film, my teacher and my friend Henrika Szablewicz died. And he died in very quickly somehow. He became weaker and weaker and weaker. A person full of joy and energy, and suddenly disappeared. So suddenly the film turned to a totally different direction. Suddenly it was a kind of reflection or thoughts, where everything disappears. One day we are young, next day we are not. One day we are here, next day we are gone. So that was the very shortly how this film started, and now we can see a little piece from the film.
Je vais juste faire une brève introduction sur ce film en particulier. Vous parlez un petit peu du point de départ qui, à l'origine, était très différent. Je voulais m'intéresser à cette quête éternelle de jeunesse, cette quête assez illusoire. Et puis, très soudainement, mon professeur et ami, Chablavicius, a été très affaibli et il est mort. Et c'était quelqu'un qui était très joyeux, très énergique et qui est disparu comme ça quasiment du jour au lendemain. Et donc, mon projet de film a pris un virage complètement inattendu. Et je pense que c'est le reflet de mes pensées de l'époque. C'est-à-dire, pourquoi les choses changent si vite? Pourquoi un jour on est jeune et le lendemain on n'est plus? Pourquoi un jour on est ici et le lendemain on est parti? Donc, voilà un petit peu, en quelques mots, l'origine de ce film.
Donc, est-ce que on peut voir l'extrait numéro 3, s'il vous plaît? Voilà, donc je pense que dans ce film, on voit plusieurs choses qui est déjà un peu signature dans votre cinéma, et on ne parle pas beaucoup et il y a un intéressant rapport silence musique dans ces images là. On voit donc le corps, les mains ou voilà la personne âgée qui est en train de courir dans sa chambre. Donc voilà, on voit des vieilles personnes sur lesquelles, à mon avis, dans vos films, vous avez un regard vraiment avec beaucoup de la chaleur et beaucoup d'amour. Peut-être que vous avez envie de voilà parler de certains de ces sujets en particulier.
Yes, I have to say, yes, it could be seen as a signature, because I really, especially in my first films, I really didn't like words, and the first reason that I a little bit told you, because the words were used to lie, so that we all had this, my generation had total distrust towards. But also, it was also another reason, very important reason. Then I started filmmaking. For me, it was important to understand where I go, what if this art is strong enough to stand on its own. Because if it needs kind of support of literature, words, that means that it's not that's not strong enough. It's kind of crippled. You cannot do this without words, without information, explanation. So maybe I thought, this is a wrong art to devote your life. Maybe I should go to literature. I write something. Because literature does not need any support, or poetry does not need, music doesn't need any support from different arts. So for me, it was important to tell to myself that the cinema as a media, as an art, could express all the spectrum of emotions without words. So that's why all this film silence. And another aspect, another question that was very important for me. I understood. Okay, you can film everything that you can see, and that's easy. And that's everybody can do this. Now you can just take a mobile phone and you film. So that's not a big deal. It were many filmmakers who made political films and who made things on the reality. They were going to the streets and filming what is happening. Yeah, and then I thought, okay, it's easy. You go and you film. But I thought, but what can you film something that is invisible? Can you film something that you cannot describe in words? And something that you cannot even see. And if you can do this, I think then it's worth to do. It's a big challenge, but then it's interesting. Then it's something that you can devote your whole life to find the ways to do that.
Alors, oui, je suis d'accord avec vous, effectivement, sur le fait que ça peut constituer une forme de signature à travers mon œuvre. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, au début de ma carrière, il y avait cette défiance envers la parole. C'est-à-dire que pour nous, les mots étaient les outils du mensonge. Et pour toute ma génération, je pense qu'on a longtemps eu cette défiance envers les mots. Mais aussi, il faut, je pense, pour essayer de comprendre ce rôle du silence, au début de ma carrière, j'essayais vraiment de me poser la question de savoir, en fait, si le cinéma est un art qui va réussir à se suffire à lui-même. C'est-à-dire que si on a besoin des mots, si on a besoin de la littérature pour appuyer le cinéma, dans ce cas-là, ça veut dire que le cinéma est une forme artistique estropiée. Et je pense que si ça avait été le cas, je me fourvoyais, en fait. J'étais dans la mauvaise voie artistique, il fallait que je me consacre plutôt à la littérature et que je devienne écrivain. Et donc, justement, le fait de me confronter à cette absence de la nécessité des mots, pour moi, c'était une recherche de la preuve que le cinéma peut justement exprimer tout le spectre des émotions sans passer par la parole. Et puis, au fond, il y avait une autre question qui était cruciale aussi pour moi, c'était le fait de me dire, bon, filmer ce qui est visible, ça c'est facile, c'est à la portée de tout le monde maintenant, notamment avec les smartphones. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont fait de très bons films politiques où ils étaient simplement descendus dans la rue, filmer la réalité de ce qu'ils observaient. Mais est-ce qu'on peut filmer ce qui est invisible, voire même ce qui est intangible et ce qui est indicible? Et si on y arrive, là, ça vaut vraiment la peine de consacrer sa vie au cinéma. Ça vaut le coup. Et c'est vraiment ce que je compte faire du reste de ma vie.
So, my first independent film, the first film after the graduation, was called Earth of the Blind. And this was film exactly. I thought, I saw the blind people and I thought, can you describe their world, how they see? Because it's not, then you think that the blind people, they have just blackness in front of them. You're totally wrong. It's not like that. They have their own world. They have their own dreams. They have their own colors. They imagine worlds. And it's totally different. And you cannot illustrate that, because then it would be stupid to do that. But can you, with the film language, somehow to express that feeling of being blind, being alone in this vast universe, and this different perception of the world? So that was my first attempt to that direction, and probably we can watch the little piece from the film.
Donc le premier film indépendant que j'ai fait dans ma carrière, juste après donc mon diplôme, c'est un film qui s'appelle Earth of the Blind, donc la Terre des aveugles. Et le point de départ, c'était après avoir longuement observé des aveugles, je me suis demandé comment on peut décrire leur façon de voir le monde dans un film. Si on pense que ce sont des gens qui ne voient que du noir, on a tort. Au contraire, c'est des gens qui ont leur vision du monde, leurs rêves, leur façon de voir les couleurs. Et ils se représentent des mondes à l'intérieur de leur pensée. Et ce serait, je pense, un peu bête de faire un film qui est simplement une illustration de ça. Donc il va falloir essayer, à travers le langage du cinéma, d'exprimer la sensation notamment de solitude très forte que doivent ressentir les aveugles. Donc je pense que ce film en était la première tentative et on va en regarder un extrait.
You are going to see this old lady. It's really, really old, who is living alone with her animals. And we came up with the title Earth of the Blind. I thought that they are blind. But after I made this film, I thought we are blind, and they see so much more than we do, with different senses, with different sensibility, with everything. They see with their hands, with their ears, with their hair, with everything. So probably we have kind of limited vision, and they have something more. And I wanted to speak about that in my film.
donc dans l'extrait que vous allez voir, vous allez donc observer cette très vieille femme qui vit seule avec ses animaux de compagnie. Et quand j'ai commencé le projet, j'avais ce titre en tête et je me suis dit, bah, les aveugles du titre, c'est eux. Et après le tournage, en fait, je me suis aperçu que les aveugles dont je parlais, c'est nous. C'est-à-dire que les aveugles que je filme, c'est des gens qui voient infiniment mieux que nous, qui développent tellement d'autres façons de voir, de percevoir, que ce soit par le toucher et par l'ouïe.
Donc, est-ce qu'on peut regarder l'extrait numéro 11, s'il vous plaît? Quelques questions peut-être de la salle. Oui, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Peut-être que vous avez déjà des idées, quelque chose, des questions?
Bonjour, merci beaucoup pour votre travail. Je ne connaissais pas votre travail avant cette rétrospective et je trouve ça vraiment magnifique. J'avais deux questions. La première, c'est Mathieu Macheret a écrit un article dans Le Monde sur votre rétrospective. Il parle de Tarkovsky et je voulais savoir si Andrei Tarkovsky était un réalisateur qui vous a influencé et qui compte pour vous. Et d'autre part, j'avais une question sur la suite, parce que votre dernier film date de 2018, je crois, et je voulais savoir si vous aviez d'autres projets.
Thank you for the questions. Yeah, absolutely. Yeah, Tarkovsky was my god and my idol. I remember I went to Père Lachaise to look for his grave, and I was looking unsuccessfully. Then I realized that actually he's not buried in Père Lachaise. He's buried in Saint-Geneviève-de-Bois. So I took the train, I went there, and I didn't take a map of the cemetery. I thought the spirit of Tarkovsky will lead me to his grave. So I was wandering for 2 hours in this cemetery, and I couldn't find the grave, and the spirit of Tarkovsky did not take me to his grave. So then I went to the guy who is taking care about it, and he showed me the grave, and I went there, and I left my respect to this great master. But of course, this was a great influence. For me, it was, I said, there are good films, bad films, but Tarkovsky for me is above that. It's not about the good films. It's something that changes your life forever. And for me, he was like a messenger from somewhere. So yes, yeah. So answer is definitely yes. I watched his films many, many times. I'm still watching his films, and I consider him the best filmmaker in the world, in the history of cinema. And yes, you are right. I stopped for 6 years, and it was two reasons actually. One was COVID. It stopped me but that was not the main reason. The main reason was that I worked with a great, great cinematographer for 13 years. And Uku Ukai was my first film that you saw with him. And The Woman and the Glacier that you just saw now was my last film with him. And around 6 years ago, he died from the cancer. He was 44 years old. And it was a big shock for me. Then you work with somebody for 13 years. It's very difficult. We understood each other without a single word. We worked very, very closely. So for me, I couldn't adapt and couldn't find another person to film with. So, and it took 6 years for me to find a new DOP. And now I'm working with my own son. So he's a DOP of my films, and I'm making film in South Korea now, in Seoul and other places of Korea. So, and the film should be released at the end of maybe end of this next year, 25, or maybe big, like middle of 26. And we'll be glad to share with you.
Yeah, I have a,
pardon, je vais juste traduire brièvement avant le... Merci. Alors oui, Tarkovsky, évidemment, pour moi, c'est le plus grand d'entre tous. C'est mon idole et je me souviens avoir cherché sa tombe au Père Lachaise. Et on m'a dit en fait qu'il était enterré à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc j'ai pris le train pour y aller, mais je n'avais pas de carte du cimetière. En fait, je me suis dit, je vais laisser son esprit me guider jusqu'à lui. Et j'ai erré comme ça pendant 2 heures. Je n'ai pas trouvé, donc j'ai demandé au gardien de me montrer sa tombe. Et j'ai enfin pu rendre hommage au maître. Alors évidemment... Parfois on dit qu'il y a des bons films, parfois on dit qu'il y a des mauvais films, mais je pense que Tarkovsky transcende cette division-là. Il a fait des films qui ont changé, je pense, ma vie pour toujours. Et j'avais l'impression, en découvrant son œuvre, que c'était comme s'il avait été envoyé d'ailleurs. Donc bien sûr, son œuvre me parle beaucoup. C'est des films que j'ai vus et revus et que je continue à voir. Et je pense qu'il a marqué l'histoire du cinéma pour toujours. Et quant à cette question de l'interruption, il y a deux raisons à ça. D'abord le Covid, mais la raison, je pense, essentielle pour laquelle je n'ai pas fait de film pendant tout ce temps, c'est que j'avais un grand chef opérateur qui m'a accompagné pendant 13 ans. Le premier film qu'on a fait ensemble, c'était Uku Ukai, jusqu'à La femme et le glacier. Et malheureusement, il est mort d'un cancer à 44 ans et j'ai vraiment vécu sa disparition comme un choc. En fait, ça a été tellement dur, c'était quelqu'un... qui était tellement proche de moi qu'on n'avait pas besoin de parler sur les plateaux. Et je n'avais pas réussi à trouver voilà, comme ça, d'autres collaborateurs. Je me disais que c'était impossible. Et j'ai mis 6 ans comme ça à trouver un autre chef opérateur qui, en fait, est mon fils. Et on vient de faire un film en Corée du Sud, à Séoul et ailleurs. Et donc, le film devrait sortir soit à la fin de 2025, soit courant 2026.
Yeah, I would have a question about... also about cinematography. I see you have made films both on analog film and then with digital cameras. And the other one is with film it's always finite and then with digital it's at least seemingly infinite. So did this transition from analog film to digital cinematography somehow affect your practice and or what this transition meant to you?
Donc c'est une autre question justement sur l'image des films d'Audrius, c'est-à-dire que vous avez à la fois fait des films en pellicule qui peut avoir un aspect définitif et en numérique qui de prime abord serait comme ça infini au contraire. Quel a pu être l'impact pour vous de cette transition de passer de la pellicule au numérique?
Countdown? We don't have countdown. No, okay. Yeah, I have to say that's a very good question. I think this digital revolution changed everything, and the transition, and I think it killed so many filmmakers for the older generation. They couldn't adapt to digital, and I was resisting till the last moment. I thought, no, I'm never going to make films on digital, because I thought this is a compromise. You have the 35 millimeters image, and then you have this shitty video image, and then you say, yeah. It's more or less, it's not good, it's not too bad, it's okay image. And this is, from my understanding, this is a death of any creativity. The moment then you say, yeah, I don't like the image, but yeah, it's okay, your film is dead. So I really resisted till the moment, then I understood that, okay, I lost this battle. And I have to move to digital. So Uku Ukai, and this that you see here, yeah, that's my goodbye for 35. And then the next film I made halfly, partly digital, partly 35. It was not a very successful experiment aesthetically, because then you see it really. But little by little, instead of resisting, suddenly I understood the opportunities and new opportunities that digital is giving to you. And instead of fighting against this or keeping this 35, I think you need to explore what new it gives to you, this kind of totally unlimited options and this opportunity to wait, to not to save the footage and to observe your character, be close to your character. So little by little, I understood that you should not copy, you should not do the same, let's say, imitate with digital the 35, but instead just use what it gives you, this new unlimited aesthetical and ethical opportunities. So now I am, and now, of course, I think this is a snobbish to go back to 35. I think the digital is so advanced, it's so good, it reached the level, then you can, it's not a compromise with aesthetics of image anymore, and I think it's beautiful, and it's I like it.
Alors c'est une excellente question. Effectivement, je pense que la révolution du numérique a tout changé et ça a achevé, je pense, une certaine génération de réalisateurs qui n'ont pas su s'adapter. Moi-même, je me suis battu bec et ongles pour refuser ce compromis qui était, à mon sens, la transition de la pellicule vers le numérique. C'est-à-dire qu'on a... Au départ, on avait quand même cette image assez merdique en vidéo, et j'entendais les gens dire oh, « c'est pas si mal, c'est acceptable ». Ce qui pour moi est une forme de mort de la créativité, c'est-à-dire que si on dit « moi je suis pas fan de cette image, c'est passable, mais je vais quand même faire mon film en numérique », c'est la mort du cinéma. Et puis, progressivement, j'avais quand même la sensation d'être en train de perdre cette bataille. Uku Kai, c'est un petit peu mes adieux au 35mm, et le film que j'ai fait après, c'est moitié numérique et moitié argentique, et c'était une expérience assez malheureuse, notamment parce que j'ai l'impression qu'on voit trop le passage d'un format à l'autre. Et puis progressivement, je me suis ouvert aux possibilités justement de la caméra numérique, plutôt que d'être cramponné comme ça au 35mm. Je me suis dit que c'était l'occasion justement d'explorer les nouvelles possibilités qu'offrait le numérique, et notamment son aspect infini. On n'a pas besoin d'économiser la pellicule en numérique, c'est un moyen aussi de me rapprocher des gens que je filme, et donc petit à petit je pense avoir commencé à comprendre comment fonctionnait le numérique, et il faut surtout pas essayer d'imiter, je pense, la pellicule, il faut l'accepter telle quelle, et je me suis laissé, voilà, gagner par les possibilités esthétiques et éthiques du numérique, et aujourd'hui je considère que c'est même snob d'essayer de revenir à la pellicule. Le numérique aujourd'hui, il est tellement développé, il a atteint le niveau du 35mm, et il a même, je trouve, une certaine beauté.
And to add to this, I accepted digital, and then I thought, okay, I'm going to make films, but there are some red lines and limits. And films with the mobile phone, it's no go. It's this kind of, it's impossible. Then if you start making films with your mobile phone, then it's not art anymore. But the moment I thought about that, suddenly I see the film in neon, in Vision de Réel. I see a film by Boris Garet, and the film is called People I Could Have Been and Maybe Am. And this film is film with a mobile phone, and not some kind of, not iPhone or Samsung or something, but really bad old Nokia. And I watched this film, and I think this is a masterpiece. I think this is the exact media. It cannot be filmed on 35. It cannot be filmed on digital. It has to be filmed with this shitty Nokia. And it's absolutely beautiful. So this is what I want to say, that it's us, I mean the filmmakers, who prove, who expand the limits of cinema, and not the technical means define the film language, but the filmmakers. And if the talented filmmakers, they can do films on anything you can imagine.
À l'époque justement où j'ai accepté le numérique, j'ai quand même défini une sorte de ligne infranchissable, c'est-à-dire qu'à l'époque je me suis refusé par exemple de tourner un jour avec un téléphone. Je me suis dit, à partir du moment où on commence à faire des films avec un smartphone, c'est plus de l'art. Et puis au moment où j'étais en train de penser ça, j'ai découvert à Nyon, au Festival Vision du Réel, un film de Boris Garrett qui s'appelle « Les gens que j'aurais pu être et ceux que je suis peut-être », qui a été fait au téléphone portable, même pas un iPhone ou un Samsung, c'était vraiment fait avec un Nokia première génération. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film qui n'aurait ni pu être fait en pellicule, ni même en haute définition. Et je pense qu'il y a seulement un Nokia pourri qui aurait pu atteindre ce niveau de beauté, en fait. Et c'est là où je me suis dit, c'est aux réalisateurs eux-mêmes de repousser les limites de leur art. C'est pas la technique qui va définir ce qu'est un film, mais c'est très important que ce soit les cinéastes eux-mêmes qui fixent ces limites-là.
Hello. Ruta and I went to opening evening the other night and saw the first two films. And despite the lack of words throughout much of the film, the presence of sound was really overwhelmingly incredible. And we're both musicians, so it struck us quite a lot. And I just wanted to ask if that was a choice or if that was a discovery over the course of your filmmaking or why. You know, it spoke more than the silence or lack of words, really.
Voilà, donc on a pu assister aux deux films qui étaient projetés lors de la soirée d'ouverture. Et certes, il y a une absence de dialogue, mais on a été frappé par l'utilisation incroyable que vous faites du son, d'autant qu'on est musicien. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette découverte? À quel moment dans votre carrière vous êtes aperçu du pouvoir que pouvait avoir le son au cinéma?
I have to say that for my first films, and the film that you saw at this opening night, Flying Over Blue Fields, it's one of my first films. It's made in 1996. My first film was made in 1992. And I worked with the different production companies. I worked with the different DOPs until I met that one, but I changed. I used to change the crews. The only person that I never changed was the sound director, Viktoras Juzonis, with whom I also developed a very, very close relationship and total understanding. So for me, we really decided, and we said that we are going to spend discussing the dramaturgy of sound the same amount as the dramaturgy of image. Because we sometimes forget that the cinema is sound and image. And sometimes, of course, we pay a lot of attention to the image, to the composition, to the colors. And what would the filmmakers do with the sound? They say, okay, fill this. It make it natural. And I think this is wrong. I think it has to be its own. And this person really, really understood what I meant about that. And we were creating, actually, separately, creating the soundtrack of the film. We used to watch the film without image. And that was a very important thing, that we just listen how it goes, without watching the image, and sometimes watch the image without sound. So it has, and then we put together. And he was creating all the sounds. The sound that you see of the airplane, let's say. I said, I don't want the real airplane, because then it will be technical. And I don't want the musical sound. We have to create something in the middle that it would be kind of, that you would not recognize. So what he did, he took the piece of paper, and he was like, but this hard paper. Probably you don't hear this. But, and then you have these nuances, and then you don't understand where the sound is coming from and how it's created. So every sound, it was created by handmade, I would say. And these two musicians, I really liked this kind of totally primitive, but totally genuine and totally simple way of singing this old song with very, very sentimental, very simple, but it's somehow going to the roots and going to the past, has no sophistication, but some that this pure genuinity in it.
Oui, alors c'est vrai que notamment le film dont vous parlez, Flying Over Bluefield, qui est un de mes premiers films, en fait, il date de 96, j'ai commencé à réaliser des films en 92. C'était une époque d'ailleurs où je changeais d'équipe quasiment à chaque film. Je changeais notamment de chef opérateur jusqu'à rencontrer celui de Ukukai, mais voilà, mes producteurs aussi changeaient d'un film à l'autre. Et il y a une personne avec laquelle j'ai toujours travaillé, c'était mon ingénieur du son, Victoria Sisonis. Avec qui on a d'emblée bâti une compréhension mutuelle et on a très vite établi le fait que les films devaient reposer à la fois sur une dramaturgie visuelle, certes, mais aussi sur une dramaturgie sonore. Parce que souvent, quand on parle de cinéma, on a tendance à oublier que c'est un art audiovisuel. Et donc, on parle souvent voilà, de l'image, la composition du cadre, l'utilisation des couleurs. Et on dit, bah, le son, on aura juste à remplir la bande-son, il faut que ça ait l'air naturel. Et je pense que les réalisateurs qui travaillent comme ça ont tort d'une certaine manière, parce que nous, on a compris justement que la bande-son doit être tellement essentielle que parfois, quand on travaille sur la post-production des films, on regarde le film sans les images. Et on se laisse porter voilà, par la trajectoire, par ce que ça raconte. Et parfois, on fait aussi le contraire. On regarde les images sans le son. Et on avance comme ça en tâtonnant. Mon ingénieur du son, notamment sur ce film, c'est lui qui a conçu tous les sons. Les plans d'avion, par exemple. Je tenais à ce qu'on n'entende pas le vrai son de l'avion. Il y aurait eu un côté trop technique. Et en même temps, je ne voulais pas recouvrir ça de musique. Il fallait qu'on invente un entre-deux. Un son qu'on n'arriverait pas forcément à identifier. Alors, en fait, il s'est retrouvé, si j'ai bien compris, à caresser un morceau de papier, il a enregistré ça pour faire le son de l'avion. C'est un son, quand on l'entend, on ne sait pas d'où il vient en fait. Et c'est des sons qui sont vraiment très artisanaux. Même chose aussi pour la séquence musicale où on a comme ça ces deux musiciens qui, d'une manière très primitive, commencent à chanter ces chants traditionnels qui ont une dimension sentimentale et ils le font de manière très rudimentaire. On sent qu'il y a une grande pureté et une grande sincérité dans leur approche.
Il y a beaucoup de l'humour, finalement, dans vos films aussi. Je pense effectivement à un rapport à des animaux, par exemple. Donc, peut-être vous pouvez peut-être parler un tout petit peu, voilà, d'où ça vient.
It was mentioned, it was observed by the film theoreticians and film critics that this tendency to film animals. And why animals? And probably the answer is because animals do not lie. And this is, I think this is very important. Everything what we're doing, how we are spending our life and our efforts to get this moment of truth. And then it seems so easy, but it's so difficult. The truth is always hidden somewhere. If you film somebody, it's so difficult to get through the mask. We know so well how to hide, how to present ourselves. I'm here not who I am now. I'm playing Audrey Stonis, the filmmaker Audrey Stonis, who is giving this master class, but it's not me. It's not real me. And you probably, you know, it takes time so the same with all the characters. And it's so difficult to get this moment of truth. And with animals, you have it, So for me, it's very important to have this like a Camerton. I don't know this kind of something that you could see and you could compare. This moment of truth. So, probably in in all of my films, you could find a scene of with animals. In the Woman and Glacier, I have this really sweet cat and dog. We don't have them here. Yeah, and we have these animals in Ethel the Blind. In every film, I like, and this humor. I think it comes naturally. They are sweet and they are funny and they are truthful. And this is. Then you see their eyes. You see some the purity, and I think this is what we all are trying to reflect or to film to catch somehow. And sometimes you manage it with this all with the people, and sometimes you have these moments of truth in the film. I cannot say that probably it's impossible that your film from beginning till the end is like this pure truth. Sometimes you have few seconds of this truth, and then we call among ourselves miracles. That like little, the more these little miracles you have in your film, the better your film is. But you see, it's so rare that you even call it a miracle, just a simple moment of truth. And this is that's what you're trying to achieve and to find every moment.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théoriciens du cinéma et de critiques qui ont parler à travers l'histoire de la récurrence de plans d'animaux. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les animaux ne mentent pas, en fait. Nous, en tant qu'humains, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est voilà, de porter un masque social. Et quand on filme quelqu'un, c'est ce qu'on voit au premier regard. C'est le rôle que cette personne est en train de jouer. C'est extrêmement dur, en tant que cinéaste, de capter ce moment de vérité où une personne est telle qu'elle est. Et je pense qu'on ment tous dans notre vie. Moi, ici, je joue à être Audrey Houstonis, le réalisateur qui est en conversation avec vous. Ça va prendre du temps pour que je me laisse aller. Et c'est extrêmement dur, alors que chez les animaux, il y a une immédiateté, je pense, dans leur vérité. Il y a quelque chose qui est immédiatement perceptible chez eux. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle, dans tous mes films, j'ai inclus, effectivement, une scène avec des animaux. Dans La Femme et le Glacier, on ne pourra pas le voir dans l'extrême, mais elle a un chien et un chat qui sont adorables. On a vu le bestiaire incroyable dans La Terre des Aveugles. Et je pense que l'humour vient de la spontanéité des animaux aussi, de leur... C'est des êtres qui sont à la fois adorables, drôles et tellement vrais. On arrive à lire la pureté dans leurs yeux. Et en tant que cinéaste, on a tellement envie de l'attraper. Et parfois, on arrive à attraper cette vérité-là chez les gens. C'est très dur que ça arrive de A à Z. Souvent, on va capter seulement quelques secondes ici et là. Et quand ça se passe, c'est ce qu'on appelle le miracle. Et je pense que plus on a de moments miraculeux dans un film, meilleur... Et le film, c'est en tout cas en tant que réalisateur ce qu'on espère arriver à atteindre.
Vous évoquez justement des moments particuliers, peut-être de laisser aller ou en tout cas de vérité. Et moi, il y a une question que je me posais en traversant votre filmographie, c'est que on voit plusieurs scènes où des gens dorment dans différents de vos films. Et c'est un moment très intime, finalement, le sommeil. Et je me demandais comment vous arriviez à établir des relations de confiance suffisantes pour que vous puissiez capter le sommeil des personnes que vous filmez.
Yeah, thank you for the question. I have to say that the trust is the absolutely crucial word in our work, because if you don't have this trust, then you cannot make a film. Then it's useless. Then you will be suffering, and your characters will be suffering. So in a way, it's a precondition to make a film. And this trust, it has to be 100%. And I even, what I discovered and made it a kind of a method But I ask my characters if I can film them while they are sleeping. And if they agree, if they say yes, of course not at the first meeting, because then they will, I would be, you know, kicked out immediately. You cannot meet a person and say, can I film you sleeping? But after some time, I ask them. And the moment then I feel that we already have this trust. And if this person say, okay, you can film me while I'm sleeping, then I know that I have this trust. Because the person then he sleeps, or she or he sleeps, it's in a very vulnerable position. It's kind of, we don't control ourselves. We don't know how we look. Maybe we open mouth, maybe we are snoring, I don't know. It could be embarrassing, and you need like a lot of trust to let somebody be present while you're sleeping. And so that's why, and sometimes I use those scenes, but sometimes I don't. But in many of my films, you have this. You have in this little girl sleeping in the Gates of the Lamb. You have sleep Ramin. You have sleeping Ukukai. You have this old lady sleeping. Yes, it for me. And also for me, this it's always I'm very interested and very drawn by this, the border between the reality and the dream. So this kind of, the sleeping is the transition between the sleep, the reality, and the dream. So for me, it's I like to observe this moment.
Alors, c'est vrai que la confiance, c'est un élément, je pense, crucial du travail de n'importe quel documentariste. C'est la condition sine qua non sans laquelle tout le monde est malheureux, je pense, sur le plateau. Et donc, il faut cette confiance absolue. Et donc, j'ai développé cette méthode avec les gens que je filme dans mes documentaires. Je leur demande si je peux les filmer pendant leur sommeil. Alors, évidemment, je ne leur demande pas la première fois que je les vois, sinon je me ferais probablement jeter. Mais au bout d'un certain temps, quand je sens qu'ils sont prêts, quand je sens que c'est le bon moment, je leur demande, et s'ils m'accordent cette autorisation, je sens que j'ai leur confiance absolue. C'est vrai que le sommeil, c'est un moment très particulier de vulnérabilité. On n'a aucun contrôle sur notre corps à ce moment-là. On peut dormir la bouche ouverte, on peut être en train de ronfler. Ça peut être potentiellement très gênant à regarder. Et donc, je sens qu'il y a comme ça une grande confiance, et ça m'intéresse de filmer ces moments-là. Parfois, je les inclus dans mes films, parfois pas. Dans Gates of the Lamb, il y a ce moment, par exemple, où une jeune fille est en train de dormir. Il y a une scène de sommeil aussi dans Ramin. Dans Ukukai, on voit cette femme en train de dormir. Et j'ai toujours été intéressé et même attiré par cette frontière entre le rêve et la réalité. Et je pense que le sommeil représente parfaitement cet état transitoire.
And speaking about the sleeping, this, you saw this old lady in Ukukai, the one who's running in the room. So I asked her that if we can film her while she's sleeping, and she said, okay, you can film. But we were filming with 35 millimeters at that time, and this is a big Ariflex camera. So my cameraman, to be able to film this, he had to construct the kind of deconstruction above her bed and place the huge camera here and a lot of lights. And we decided that we are going to film her every hour in the night, like 12, 1, 2, 3, every. We wake up and we film. And we ask her, how sensitive do you sleep? And she said, oh, if it's the smallest sound, I wake up immediately. And we filmed. We were sleeping on the floor next to her bed, and every hour we used to wake up, put on the lights, because the 35 millimeters camera needs a lot of light, and put on the camera, which is like this kind of sound, and we filmed her every hour, because I didn't want her to just to pretend that she's sleeping. I wanted real sleep. And she never wake up. And she didn't wake up that night. And in the morning, I asked, how did you sleep? And she said, oh, I slept like a baby. I didn't wake up a single moment. And then I really thought about that. What is the secret? And then I understood. This old lady, she lives on the first floor in this little town. Maybe she's always afraid of, maybe that's a thief. Maybe something is breaking in her house. So she's, and suddenly she felt for many years, she felt totally safe. These two guys are sleeping next to her bed. So she doesn't need to worry about any thieves that are breaking into her apartment. And she tried, and so this trust and the feeling of security that we created that made this kind of miracle that she slept for many years. She, for the first time, she slept like a baby, no matter of these lights and cameras.
Et je voudrais revenir sur cette femme aussi qu'on a vue faire les 100 pas dans son salon dans l'extrait de Kukukai. Donc on lui a demandé effectivement si elle accepterait d'être filmée dans son sommeil. Elle a accepté. Et à l'époque, on tournait avec une caméra 35 mm, une Arriflex assez imposante. Et il fallait que mon chef opérateur construise tout un dispositif où la caméra serait en plongée au-dessus du lit. Il y aurait beaucoup de projecteurs pour l'éclairer. On s'est dit qu'on allait la filmer comme ça une fois par heure tout au long de la nuit. Et on lui demande comme ça, est-ce que vous avez le sommeil léger ? Elle dit, au moindre son, je me réveille immédiatement. Donc, on s'installe par terre pour dormir. On se dit qu'on va se réveiller une fois par heure pour la filmer seulement quelques instants. Et à chaque fois qu'on allumait le moteur, on avait comme ça ce bruit mécanique comme ça qui venait. Et je voulais absolument pas qu'elle feigne le sommeil. Évidemment, il fallait que son sommeil soit sincère. Elle a dormi comme ça toute la nuit. Et au réveil, je lui demande comment elle a dormi. Elle me dit, j'ai vraiment dormi comme un bébé. Et j'y ai repensé. Je me suis dit, mais quel est le secret au fond ? Et c'était une femme qui habitait au premier étage d'un petit immeuble dans un village, qui avait probablement très peur des voleurs. Et pour la première fois, elle s'était sentie en sécurité parce qu'il y avait ces deux types qui dormaient au pied de son lit. C'était une formidable alarme anti-cambriolage. Donc je me dis, voilà, c'est un miracle. Pour la première fois, elle a fait une nuit complète et elle s'est sentie en sécurité grâce au film.
Je pense qu'on a peut-être le temps pour la dernière question. Est-ce qu'il y a une dans la salle ? C'est d'ailleurs très drôle. Hier, entre vos deux séances, parce que je me disais que je ne vais peut-être pas rester pour la deuxième, mais finalement, je suis restée. Et entre les deux séances, je suis allée voir à l'atelier Brancusi, il y a une exposition d'Apichatpong. Et il y a un petit extrait où il y a Tilda Swinton qui dort. Et justement, je me disais que voilà, ça, c'est aussi, ça me ramène encore à des films de Audrius. Donc voilà, c'est juste pour une anecdote. Si vous n'avez pas vu, allez-y. Et donc, est-ce que peut-être on a une dernière question ? Oui, Marion, vas-y.
Sinon, vous pourrez avoir encore une dernière question si jamais elle vous vient. Audrius, moi, justement, on parlait de la notion de confiance que vous réussissez à tisser avec les personnes que vous filmez. Et je pense à deux films en particulier, mais il y a certains de vos films qui montrent aussi une sorte de barrière qui se construit entre vous et la personne filmée, qui se place surtout dans un silence, qui indique parfois un refus, mais ces refus-là aussi, en fait, vous les montrez dans les films et vous abordez cette question-là de façon assez intéressante. Et je me demandais si vous voulez bien en parler un petit peu.
I because I was raised and I in the during the time of 35 I never my personal engagement or my personal I was always like an observer from a side, and this is because that's the nature of 35. You cannot. It's a totally different world now than you can go with the camera to, so close to the like inside of the person, the life of somebody. You can be so close. You can spend so much time. I always have this kind of distance from my characters, observing them, not pretending that I'm not there, but still my camera was also observing from the side. I remember my very first film that I made, that was Open the Door to Him Who Comes. I remember we used to spend up to 3 minutes per day. Actually, 2 minutes. That was, we decided that we are going to spend 2 minutes, to film 2 minutes every day. And I remember the first day we filmed 4 minutes, and then we have production meeting. We say we cannot spend so much image, so much tape in one day, otherwise we will run out of tape, because we only have 60 minutes to make a film. 1 hour. 1 hour to make a film, that's it. The tape is finished, the film is finished. So that's why this is it's a totally different attitude, and it's a totally different way of approaching your subject and your character. It's then you just look, you wait, and you just film just this particular very specific moment. And then you are very careful to say start and stop. So that also defines, this is very different. And then you have those 2 minutes, and then you are happy. And then you can film like that. I remember my first character, and he saw us filming like that. He said, you never earn bread in your life with that kind of work. Because the only thing he saw us walking all day long, not even filming, just walking and looking something again and again and again, and maybe and one day like that's it, we're done for today. So he was thought, this is totally crazy. But that was a totally different attitude. We actually spent one day to find those 2 minutes. Now people are filming 250, 300, 400 hours. For me, it's totally unimaginable. And people are going so close to and spending so much time. So, but this is, as I said, it's a totally different world and totally different language. And you need to adapt to that world.
Alors oui, effectivement, c'est vrai que moi je viens de l'époque du 35 mm. C'était une époque où on était des observateurs à distance. On observait les choses depuis les côtés, on était des observateurs silencieux. Aujourd'hui, je pense qu'avec le numérique, au contraire, on peut s'approcher de quelqu'un, on peut vraiment plonger très intimement dans sa vie, on peut passer tellement de temps comme ça à emmagasiner des images. Alors moi justement, quand je filmais avec une caméra 35 mm, je ne simulais pas du tout mon absence, mais je me souviens que sur un des premiers films que j'ai fait, Open the Door to Him Who Comes, on tournait 2 minutes par jour. Je me souviens que le premier jour, on a tourné 4 minutes et on a dû faire une réunion d'urgence en se disant on ne peut pas se permettre de gaspiller autant de pellicules. On a seulement 60 minutes de pellicule au total et donc il faut vraiment faire attention à chaque seconde. Aujourd'hui, on a une façon de travailler qui est tellement différente. Je pense que ma formation, elle reposait au contraire sur l'attente. Il fallait être extrêmement précautionneux dès qu'on allumait la caméra. Et je me souviens d'ailleurs, la première personne qu'on ait filmée, qui nous a vus... voilà, travailler, en fait, on ne filmait pas, on était là à faire des allées et venues, à regarder à travers l'objectif à quoi ça ressemblait. Il se dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, en fait? Aujourd'hui, quand j'entends parler de réalisateurs qui tournent pour un documentaire 250, parfois jusqu'à 400 heures de rush, pour moi, c'est impensable. C'est un monde qui est tellement différent, et ce qui explique aussi pourquoi le langage visuel qu'on voit aujourd'hui est tellement différent.
Je me dis qu'on n'a pas du tout parlé de la spiritualité dans vos films, mais comme on n'a plus beaucoup de temps, j'ai envie de dire que je me rappelle aussi que Père Stanislavas a parlé de Dieu d'une manière beaucoup plus vaste, ce qui est en fait l'amour. Donc je me disais que en fait dans notre conversation on a évoqué plusieurs fois l'amour. Donc ça suffit peut-être comme ça. On va laisser ça comme ça. Et je vous invite à découvrir des films de Audrius Stonys. Voilà dans les jours qui viennent. Audrius, il est là jusqu'à 15 et il sera là pour les séances, pour les présenter, pour les questions après. Et voilà, Audrius, vas-y, dis.
Yeah, I just want to say that I'm really happy that now I have this 20 films that I made in 35 years in one place, and this is amazing because many of my films has been lost. They were in different studios, different filmmakers, different basements. I don't know where, and some of them they were in such a bad quality that they were impossible to watch, and I for some of my films I even lost hope. I thought I will probably I don't know how to get them back, and I using this opportunity I really really want to thank those two girls who are sitting in the back, Auste and Jana. Because they are sitting silently there, but they are the one who really found my films and give a second life to my films. So thank you so much for what you did. And honestly, I'm very grateful.
Je voudrais aussi ajouter une dernière chose, c'est que je suis vraiment heureux que mes 20 films qui ont été faits sur une période de 35 ans soient tous réunis au même endroit. C'est une occasion géniale, notamment parce qu'il y a beaucoup de films que je croyais perdus, comme ils étaient produits par différentes sociétés de production, qu'ils avaient été conservés dans différents locaux. Il y en a qui avaient été tellement... La pellicule était tellement détériorée qu'ils étaient devenus irregardables. Et pour certains d'entre eux, j'avais abandonné l'espoir de pouvoir les revoir un jour. Et donc, je remercie du fond du cœur deux femmes qui sont assises au fond de cette salle, Auste et Jana, qui ont retrouvé les films et qui leur ont donné une deuxième vie. Merci infiniment.
Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci Audrius. Merci Marion. Merci Florent. Merci Emile.
Merci à tous les trois, et simplement dire que ce soir à 20h, il y a la projection de trois films d'Audrius, Countdown, Alone et Earth of the Blind. Ce sera une projection qui ne sera pas présentée cette fois-ci. Elle sera présentée le 15 novembre en présence de Ralitza Asenova. Donc vous êtes bienvenus ce soir, ou bienvenue le 15 novembre. Et les films continuent toute la semaine ici dans les salles du Centre Pompidou. La cinémathèque du documentaire à la BPI est vraiment ravie d'avoir la présence d'Audrius. Et vous dire que la rétrospective continue jusqu'au 18 novembre, qu'à chaque film, il y a un deuxième passage. Donc les informations sont sur notre site internet, sur la brochure. Vous êtes bienvenus à revenir. Et merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos questions. Et merci à vous trois pour cette belle discussion.